Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau podcast d'Analyse F1. Si vous ne connaissez pas l'émission, eh bien le principe est le suivant. Il y a un podcast par semaine qui va traiter de thèmes d'actualité avec deux chroniques. Et une fois par mois, il y a une émission thématique qui va traiter d'un seul thème et où au milieu il peut y avoir quelque chose comme un quiz ou une nouvelle rubrique, comme ça va se passer puisqu'il y a la rubrique Mon Souvenir F1 qui va avoir lieu pas la prochaine émission, mais dès l'émission d'après. D'ailleurs, si vous voulez participer au dernier quiz ou à Mon Souvenir F1, n'hésitez pas à vous inscrire en me contactant sur Skype. Le Skype de l'émission, c'est Analyse F1, tout attaché, hein, Analyse F1, tout simplement. Donc n'hésitez pas, parce que je n'ai toujours pas de cinquième participant pour le quiz, et si je n'en ai pas trouvé d'ici les 3-4 jours, on va dire 2-3 jours, eh bien je pense que je ferai directement, enfin j'essaierai d'organiser directement la finale entre qui et qui, entre les deux finalistes tout simplement. Je me souviens qu'il y avait Oasis dans le lot, et le dernier participant... Je ne sais plus son pseudo, en fait c'est Redscape il me semble, pour ne pas donner son prénom. Je ne sais plus s'il l'avait donné pendant le quiz, donc je ne veux pas faire de boulettes, je ne prends pas de risque. Donc la finale peut-être la semaine prochaine émission, hein, n'hésitez pas à être présent. Donc ce n'est pas une émission en direct, hein, donc ne vous inquiétez pas, ça sera en podcast, donc ne vous alarmez pas. Ensuite, avant de parler du vif du sujet, c'est-à-dire ce que vous voyez en titre de podcast, hein, mon coup de gueule de la semaine et le petit récap du e-prix de Formule E, eh bien je vais revenir sur quelques actualités qui concernent certains podcasts précédents, et ça me paraît important d'en parler. Je ne pouvais pas en parler dans un podcast en particulier, faire une chronique, ça aurait été bien trop court et ça aurait fait beaucoup de redites. Donc à la place, je vais en parler au début de ce podcast. Tout d'abord, concernant Honda. Vous le savez, si vous avez écouté le précédent podcast, ils avaient demandé à la FIA de pouvoir bénéficier du dégel. De pouvoir bénéficier du dégel des moteurs, des unités de puissance, car la FIA avait d'abord dit que... Étant donné le statut de nouveau motoriste d'Honda dans la Formule 1, eh bien, Honda devait avoir la même réglementation que les motoristes ont eu dès leur première année avec le V6 turbo hybride. Et donc, Honda a dit « Ah non, hein, ça ne serait pas équitable ». Et donc, ils ont pu s'entendre avec la FIA pour que Honda bénéficie du dégel. Pour moi, c'est on ne peut plus logique. Semble plus logique. Alors je vous passe les détails, il y a une petite condition à respecter pour Honda, mais vraiment pour résumer et pour être clair, Honda bénéficie du dégel tout comme Ferrari, tout comme Renault et tout comme Mercedes. Ensuite, Jean-Éric Vergne qui a donc participé au e-prix à Buenos Aires, et donc on en sait un peu plus sur son avenir, enfin on sait qu'il ne travaillera pas qu'avec Ferrari en 2015, puisqu'il cherche d'autres pistes, peut-être en LMP1, peut-être IndyCar, peut-être en LMP1, WEC pour être plus précis. LMP1 c'est la catégorie de voitures, peut-être aussi en Formule E, continuer en Formule E plus dans une autre catégorie, plus le travail dans le simulateur. Ça serait éventuellement possible, donc pas exclusivement cantonné au simulateur, et tant mieux, parce que c'est toujours bien pour un pilote d'avoir du roulage, quelle que soit la discipline, se retrouver dans un peloton, se retrouver à se battre, avoir les sensations, c'est important, et nul doute que ça lui servira pour l'avenir. Voilà, et bien, c'était tout pour les petites news, maintenant passons au vif du sujet, à mon coup de gueule. Alors, mon coup de gueule, quel est-il ? Comme vous le voyez en titre de ce podcast, ça concerne un hommage qui a été donné, un hommage présidentiel qui a été fait à Jean-Pierre Beltoise. Jean-Pierre Beltoise, célèbre pilote français de Formule 1, qui est décédé à l'âge de 78 ans des suites d'un AVC. Donc évidemment, j'adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Mais voilà, personnellement, je suis sincère dans mes condoléances et j'aime bien les gens sincères. Je déteste l'hypocrisie. Et avant d'ailleurs d'aller plus loin, avant d'aller plus loin dans la critique, je tiens à signaler qu'Analyse F1 ne tiendra jamais une couleur politique. Tout le temps. Vous le savez, depuis le début, je prône souvent une certaine forme d'objectivité. J'essaye d'analyser les choses. C'est le nom de l'émission même qui me dirige. Et c'est moi qui souhaite que l'émission soit comme ça. Et donc, il n'y aura jamais de couleur politique de prôner, etc. Cela dit, en Formule 1, il faut savoir qu'il y a comment dire, certains éléments politiques dont il faut avoir conscience. Par exemple, au niveau du CVC, au niveau cette société qui gère un peu la Formule 1, on va dire, au niveau de Bernie Ecclestone également, il y a des choix politiques qui peuvent être faits. Des choix politiques avec certains États, certains promoteurs. Évidemment, les trois parties sont un peu liées, surtout quand on veut promouvoir la F1 dans une certaine partie du globe, par exemple, je sais pas, l'Asie, tout simplement, l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud-Est, etc. Ou les États-Unis, l'Amérique. Voilà. Et évidemment, il y a des questions politiques qui s'ouvrent derrière ça. Il y a aussi des questions politiques quand on parle de la tenue en elle-même d'un Grand Prix, c'est-à-dire au niveau des fonds qui peuvent être versés par l'État, des aides étatiques. Donc évidemment, là, il y a des choix politiques à faire, et donc c'est de la politique liée à la Formule 1. Donc, il ne faut pas y laisser de côté, il faut en parler, selon moi. Et là, il faut en parler de cet hommage qui a été rendu par François Hollande à travers un communiqué diffusé par l'Élysée. Et donc, dans ce communiqué, tout le reste est plutôt bien, sauf la partie que je vais vous lire, selon moi. Je vous la lis tout simplement, je cite François Hollande, le communiqué. Avec Jean-Pierre Beltoise, c'est une certaine idée du sport automobile qui disparaît. En plus de sa grande carrière de coureur moto, pardon, Jean-Pierre Beltoise restera comme celui qui a relancé le sport automobile de haut niveau en France, avec deux victoires en F1. En fait, il n'y en a eu qu'une en championnat, hein, soit d'accord, sur les 86 Grands Prix qu'il a courus, dont une historique à Monaco en 1972. Mais de qui se moque-t-on? Mais de qui se moque-t-on? Ce gouvernement qui a chié, qui chie sur l'histoire de la Formule 1. Et là, je ne vais pas peser mes mots, parce que ça m'a littéralement énervé. Ça m'a littéralement énervé quand j'ai lu ça. Le gouvernement qui chie sur l'histoire de la Formule 1, à force de ne rien faire pour aider à la tenue d'un Grand Prix de France, qui n'a rien fait pour aider à la tenue de ce Grand Prix de France en 2013, en 2014, alors que c'était possible, alors qu'il y avait des discussions avec Ecclestone. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible alors qu'il y avait 4 Français en Formule 1, que c'était une occasion, la meilleure occasion depuis des années. Ah, il y a eu aussi Canal+ qui s'est octroyé les droits, il y avait moyen de faire un coup pour que l'AF1, on va dire, renaisse en France. Parce que c'est un sport historique en France. La France est plutôt un pays historique de la Formule 1 quand on regarde le passé. Donc c'est une ineptie déjà de salir ce passé et de vouloir s'en débarrasser. Ça déjà, ça m'énerve, mais énormément. Mais là en plus, de chier littéralement sur l'histoire de la Formule 1 comme ça, en disant c'est une certaine idée du sport automobile qui disparaît, en louant littéralement le palmarès de Jean-Pierre Beltoise comme ça. Ce n'est pas possible, c'est une hypocrisie énorme, énorme, puisque, comme je l'ai dit, vraiment, le gouvernement n'a rien, ne fait rien pour la Formule 1, au contraire, préfère utiliser la Formule 1 pour que ce sport soit la tête de turc des maux écologiques qui se passent tout simplement, et pour adopter une posture pseudo-écologique, évidemment, s'il y a un bouc émissaire ou comment dire, une tête de turc sur laquelle taper pour éviter de parler des vrais problèmes concernant l'écologie, eh bien on va taper dessus. Et la Formule 1, c'est clairement la tête de turc à ce niveau-là. Et là, ça m'énerve d'autant plus. Vous allez me dire, oui, mais l'hypocrisie en politique, c'est pas nouveau, hein. Tu sors d'où? Tu te réveilles que maintenant? Non, certes, j'en ai conscience. Ça peut être monnaie courante, certes. Mais là, ça touche à la Formule 1. Donc, je me dois d'en parler, d'exprimer vraiment ce que je pense, ce que je ressens. Et ça touche en plus que la Formule 1. Ça touche humainement à la mort d'un pilote, à la mort d'un homme. Donc vraiment, vraiment là, c'était vraiment pas ce qu'il fallait faire. Et je suis vraiment, vraiment très déçu, quoi. Très déçu d'un tel communiqué. De cette partie du communiqué, en tout cas. Parce que on peut pas, d'un côté, au niveau des actes, toujours continuer à attaquer la Formule 1, à ne pas aider ce sport qui pourtant prône des valeurs qui comment dire, qui peut créer de l'emploi et qui en plus qui peut créer de l'emploi par rapport aux nouveaux emplois d'aujourd'hui qui concernent les emplois écologiques puisque le sport automobile aujourd'hui se tourne vraiment vers, on va dire, une raison écologique ou en tout cas se tourne vers une innovation écologique. C'est comme ça qu'on peut l'appeler innovation écologique, puisque malgré l'écologie qui peut transparaître dans les unités de puissance, c'est-à-dire toute la technologie hybride, à travers la Formule E également, eh bien, malgré ça, il y a quand même une innovation. On essaye d'aller plus vite, de repousser les limites aérodynamiques, tout ça. Donc vraiment, le sport automobile apporte vraiment beaucoup de choses, peut apporter autant de choses qu'un autre sport. Peut apporter également une certaine relance de l'économie dans certains secteurs. Enfin bref. Tout ce que l'on sait. Et au lieu de ça, tout le temps, le gouvernement, mais que ce soit celui-là ou les précédents, généralement, récemment, dans la période, on va dire, récente, depuis qu'il n'y a plus le Grand Prix de France, c'est vrai que il y a rien qui a été fait pour relancer ça, pour relancer un Grand Prix de France et pour promouvoir le sport automobile. Non, c'est plutôt le contraire. Donc venir faire ce communiqué, non, je ne l'accepte pas et je m'élève contre ça, tout simplement. Après, voilà. Je me doute que le président n'est pas le seul responsable. François Hollande n'est pas le seul responsable. Il est conseillé par justement des conseillers en communication qui sont aujourd'hui prépondérants en politique. Et j'ai envie de dire malheureusement, malheureusement, parce qu'il devrait sérieusement se remettre en question. Bah déjà au vu de ce communiqué, mais il suffit d'écouter les hommes politiques parler dans tout simplement. Dans la vie de tous les jours, enfin dans la vie de tous les jours, dans les médias tous les jours, on se rend bien compte qu'au niveau des conseillers en communication, il faudrait vraiment un gros renouvellement là, ça c'est clair, une innovation là, pour le coup il faut une innovation là, ce serait intéressant et voilà, parce que là ça donne vraiment là un hommage certes sur la forme, je ne renie pas l'hommage, c'est le rôle présidentiel. C'est le rôle présidentiel d'adresser de tels hommages à de grands hommes, à de grandes personnalités qui ont apporté beaucoup de choses. Mais il faut faire attention à ce qu'on dit. Sur le fond, le contenu doit vraiment être important. Et là, vraiment, on n'a pas fait attention. Et ça me fait mal. Ça fait très mal. Je ne sais pas si beaucoup l'ont ressenti comme ça. Mais en tout cas, moi, oui. Et c'est pour ça que je voulais passer tout simplement ce coup de gueule. Voilà. Pour me calmer, et avant de passer au récap. Du quatrième e-prix de Formule E, eh bien écoutons une nouvelle musique en rapport avec la Formule 1. Apparemment, je n'arrive pas à comprendre les paroles, donc n'hésitez pas à me dire si c'est un rapport avec la Formule 1. En tout cas, la chanson s'appelle Formula One et c'est une chanson de Nobody. Donc le mec s'appelle personne, tout simplement. Pour le retrouver, ça va être un peu compliqué. Bref, trêve de blagues et bonne écoute. On se retrouve juste après. À tout de suite. Thank you.
It's a warm place, a safe place, a peaceful time. Leave the past and the future behind. It feels like so light, like I'm never inside, inside.
Vous écoutez bien Analyse F1 et on va parler de Formule E. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rester pour écouter ce récap. Si vous avez vu le e-prix également, hein, c'est d'autant plus intéressant et pertinent, je pense. Donc, tout simplement, les résultats de ce e-prix de Formule 1, commençons par ça. Premier, Antonio Félix da Costa. Deuxième, Nicolas Prost. Et troisième, Nelson Piquet Jr. Alors voilà, cette course était encore une fois animée. Je l'ai dit lors des 4 e-prix. C'est dire si la Formule E finalement remplit son office. Il y a du sport, il y a du spectacle, bref, bon. C'est de la course automobile tout simplement, au même titre que n'importe quelle autre série. Voilà, pour l'instant c'est le constat que j'en fais. Même si évidemment il y a quelques trucs à améliorer évidemment pour que ce soit encore mieux. Mais c'est plutôt, c'est pour l'instant, pour une première année, c'est vraiment bien. En plus, on découvre des circuits dans des villes, les circuits souvent bien. Franchement, les circuits, ils sont vraiment bien positionnés dans les villes. C'est-à-dire que c'est positionné à un endroit, mais à chaque fois, c'est un endroit qui donne des belles vues quoi sur la ville, sur une plage, sur la mer. C'est vraiment vraiment bien. J'aime beaucoup les lieux choisis. Bref, et donc Antonio Félix da Costa a gagné. La course a été animée, beaucoup d'incidents, beaucoup d'abandons également, d'erreurs, comme d'habitude. Et Antonio Félix da Costa a su rester plutôt en dehors des incidents, a eu un pilotage propre, hein, c'est vrai. Et il a eu raison, hein, il a eu raison. Parce qu'il a saisi l'opportunité et a remporté cette course. Donc pour revenir sur cette course, alors, l'action, on va dire, s'est développée autour de la mi-course. Il me semble que c'était au 16e tour quand il y a eu un safety car. Et donc, les pilotes ont choisi d'effectuer un arrêt au stand. Certains directement, d'autres au tour suivant. Et donc, ça a donné lieu à un gros cafouillage. Je m'explique. Il y a eu un cafouillage du fait que l'information à propos de la place des pilotes a mis longtemps à se donner, et du coup il y avait des pilotes qui se trouvaient derrière le safety car qui auraient déjà dû doubler le safety car et effectuer un tour pour se replacer, et ça a été fait genre 3-4 tours après quoi, alors que ça aurait dû être fait quasi directement. Ça a été fait très lentement et du coup, on aurait pu avoir plus de tours de course. Au lieu de ça, c'est vrai que le safety car a duré. On ne savait pas trop, enfin. On avait l'information avec le timing, quoi. C'est facile à avoir comme information, de savoir le kilométrage et le nombre de tours de tel ou tel pilote. Ça, c'est facile. Et d'ailleurs, à la télé, on avait l'information dans le classement. Mais voilà, gros cafouillage entre la direction de course, les écuries et les pilotes. Et du coup, ça a mis un temps fou pour se décanter. Ensuite, il y a eu la reprise de la course et là on a vu plusieurs changements de leader. Tout d'abord Sébastien Buemi qui aurait pu prétendre à une deuxième victoire d'affilée et qui est très rapide, qui était auteur de la pole position une nouvelle fois, enfin non, pour la première fois je crois il me semble en plus. Enfin auteur de la pole position, il a fait une grosse erreur et il a tapé dans le mur. Voilà, une chicane. La chicane vraiment très, très piégeuse apparemment, mais bon... ce genre d'erreur, on peut peut-être s'en passer. Ce qui montre peut-être que Buemi, en termes de gestion de pression, c'est peut-être son défaut. Parce que déjà, face à Jean-Éric Vergne, lors du troisième e-prix, alors que c'était que son premier e-prix à Jev, eh bien, Sébastien Buemi avait été très fébrile dans des chicanes également. Donc attention, ça pourrait lui porter préjudice, surtout que Buemi, là, il est dans les premiers, donc il peut encore lutter pour le titre. Donc attention à ça, à la pression. Sam Bird, ensuite, a été pénalisé pour avoir grillé le feu rouge au pit stop. Donc voilà, c'est le règlement, donc normal, il a été pénalisé. Ensuite, Heidfeld. Ah oui, Nick Heidfeld qui s'était retrouvé en tête de la course. On l'a pénalisé au tour 33 sur 35. C'est un scandale, c'est insensé. Pourquoi ? Parce que tous les autres qui ont eu les pénalités... Attendez. C'est une pénalité pit stop qu'il a eu. Pour un pit stop effectué trop vite, il me semble, Nick Heidfeld, un truc comme ça. Il avait déjà été pénalisé pour ça, un précédent e-prix, donc c'est une erreur. Hein. Je sais pas si l'erreur vient de lui ou du team. Peut-être tort partagé. Bref, peu importe, c'est une erreur encore. Pour le pilote de l'écurie Venturi, si je me souviens bien. J'essaye de retenir le nom des écuries avec le nom des pilotes. Ça vient hein, au fil du temps, à force de suivre les courses. Il me semble que c'est Venturi. Et bref, pénalisé tour 33, alors qu'il a effectué l'arrêt tour 16 ou 17, hein, voire 18, hein, si jamais je me trompe, mais entre 16 et 18. Et 15 tours après, tu as effectué ton pit stop trop vite, donc tu dois rentrer au stand. Et tu dois effectuer une pénalité alors que tu es en tête. Oui, on te dégoûte encore plus, on enfonce le couteau dans la plaie. Déjà que Nick Heidfeld n'a pas été verni cette saison. Allez, un coup de plus. Non, mais c'est n'importe quoi, encore une fois, la direction de course là à la ramasse sur ce coup-là, de le pénaliser au tour 33, alors que les autres ont été pénalisés plus à temps, quoi, plutôt. Sauf quelqu'un d'autre, j'en parlerai juste après. Ah oui, c'est n'importe quoi la direction de course. Selon moi, c'est soit tous les pénalisés du pit stop doivent l'être en même temps ou presque à un ou deux tours près. Sinon, ça fausse la course. Bah oui, c'est évident que ça fausse la course parce que Heidfeld, en faisant la pénalité au tour 33, il se retrouve pas dans le même trafic et tout que s'il avait été pénalisé plus tôt. Et imaginons qu'il y ait un safety car. Avant, eh bien, ça sera encore plus faussé, imaginez. C'est n'importe quoi la direction de course, là, sur ce coup-là. J'en parle des fois en F1, hein, des erreurs de la direction de course. Hein. Là, en Formule E, pareil, hein, n'importe quoi. Là, c'était l'hécatombe sur cette course. Alors, en parlant des pénalités, et en parlant de ce genre de pénalités, Ho Pintung, le pilote chinois de Dragon Racing, il me semble, ou China Racing, je crois, je sais plus. C'est Dragon Racing ou China Racing. Bref, il a eu une pénalité de temps post-course pour ne pas avoir respecté le temps minimum au pit stop. Pareil que Heidfeld, sauf que lui, il a été pénalisé après la course. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce que ça se voit en 2 secondes sur les temps. Enfin, la direction de course, ils voient en 2 secondes ceux qui sont dans leur droit, ceux qui ont effectué les pit stops trop vite. Donc, voilà, il y a vraiment une erreur là, manque de professionnalisme de la direction de course et au détriment du coup des pilotes. Je crois pas que ça changeait quelque chose pour Ho Pintung au niveau du comment dire, au niveau de sa place, mais quand même, c'est ridicule, c'est ridicule. Et il faut en parler parce que il faut en parler. Ensuite, au niveau des autres pénalités, alors là, on va revenir à quelque chose qui va vous rappeler l'émission que j'avais faite sur les pénalités et à laquelle je vous réfère si vous ne voyez pas de quoi je veux parler. Nelson Piquet Junior a une pénalité de 5 places sur la grille de départ du prochain e-prix pour avoir été trop vite sous les drapeaux jaunes. Voilà. Il a été trop vite sous les drapeaux jaunes à Buenos Aires. On le pénalise au prochain, pour le prochain e-prix de 5 places sur la grille, c'est énorme. Sachant que les places sur la grille, ça peut être important en Formule E quand même, même si on voit des grosses remontées comme ce week-end. J'allais dire ce week-end, mais non, c'est un lapsus. Vu que c'est la Formule E, les courses de Formule E se déroulent sur un jour. C'est un jour de Grand Prix, non pas un week-end. Donc ouais, c'était Bruno Senna, il est remonté de 15 places, je crois, pour finir 5e à la fin. Donc c'était une grosse remontée. Mais ben là, Nelson Piquet, il subit les dures réglementations au niveau des pénalités. Hein, les mêmes sur lesquelles je m'offusque en Formule 1. Donc voilà, c'est complètement débile de lui mettre une pénalité au prochain Grand Prix. Mais bon, c'est comme ça. Et à titre d'anecdote, Yarno Trulli aura une pénalité de 10 places sur la grille de départ pour un changement de boîte de vitesse. J'espère pas. Par contre, je n'espère pas qu'il y a la règle de report des places de pénalité à un Grand Prix encore après, si jamais il n'a pas effectué ses 10 places de pénalité. Ça, je trouve ça d'une débilité sans nom. Voilà, bref. Trop de coups de gueule dans ce podcast, décidément. Il faut vraiment que je me calme hein, des fois. Mais je vis ça avec passion. Voilà, vivons notre passion. Vous pouvez mettre le hashtag vivons notre passion quand vous êtes comme ça, quand vous avez envie de dire ce que vous avez envie de dire à propos de votre passion, hein, quelle qu'elle soit. Évidemment, si ça concerne la Formule 1, je le verrai, c'est encore mieux. Mais voilà, il s'agit de dire les choses. Pour revenir à Jean-Éric Vergne, je l'ai trouvé nerveux en fin de course. Parce que oui, je parlais de tout ça, des pénalités à la base. Je parlais des changements de leader, hein, je vous rappelle. Donc Buemi à out, hein, Bird pénalisé, Hetfeld pénalisé. Et Jev, qui se trouvait dans la lutte pour la deuxième place, il me semble, a été très nerveux en fin de course, avec plusieurs erreurs, un blocage de roue en voulant faire un dépassement impossible. Heureusement que les monoplaces de Formule E sont solides et résistent et résistent quand elles se tapent dedans, quoi. Ça c'est bien parce que quelqu'un qui se fait rentrer dedans et qui n'est pas fautif de l'accrochage, pas du tout fautif, qui n'a rien à voir, c'est bien qu'il puisse continuer la course. Et c'est vrai que les monoplaces de Formule E à ce titre-là doivent être louées puisque elles sont très solides. Voilà, et donc Jev avec des prises de risques inutiles. On sait que son style, c'est vraiment d'attaquer et tout. Mais là c'était. Il a poussé ça un peu trop loin. Et il est allé un peu trop loin. Donc, faut qu'il fasse attention. Hein. Il n'avait pas à prendre tant de risques en plus, puisqu'il était bien placé, puisqu'il fallait surtout finir la course, hein, comme il n'avait pas fini le dernier e-prix. Enfin, son premier e-prix, qui était le troisième de la saison. Donc attention, attention, Jev. Heureusement, ça lui a pas trop porté préjudice parce qu'il a fini 6e. Mais attention, il aurait pu finir beaucoup plus loin ou ne pas finir du tout à force de vouloir trop attaquer, de vouloir trop résister. C'était très moyen, je trouve, la fin de course de Jev, alors que toute sa course était plutôt cool. À mon avis, ça devait le démanger d'aller plus loin. Il voulait le podium, on le sait, mais à trop en vouloir, on peut finir par s'en mordre les doigts. Alors, concernant, on va dire, les caractéristiques de la Formule E qui sont peut-être améliorées et tout, il faut savoir que le meilleur tour en course est à environ 2-3 secondes des temps en qualification. Il faut savoir que la vitesse moyenne a été entre 105 et 120 km/h. Donc c'est vraiment pas rapide, hein, on peut le dire, hein, la Formule E n'est pas une discipline vraiment très rapide pour l'instant, et ce pour l'instant est très important, puisque une future amélioration de la technologie est annoncée et permettra évidemment des vitesses moyennes plus élevées et des batteries qui tiennent plus longtemps. Donc voilà, il faudra voir d'année en année. Déjà, l'année prochaine, à mon avis, il y aura une très sensible amélioration. Vraiment, on pourra vraiment la sentir. Et les années d'après également. Donc voilà. Et puis, cette vitesse faible, hein, j'ai été étonné en voyant 105-120 km/h parce que la façon dont est filmée la Formule E, c'est une façon très intelligente de la filmer, une façon dynamique de la filmer. Donc on ressent assez peu la faible. Comment dire, les faibles vitesses des monoplaces. Après, des fois, c'est peut-être filmé d'ailleurs de manière trop dynamique. C'est vrai, c'est discutable, mais en tout cas, au moins, on ne ressent pas les faibles vitesses et c'est vrai qu'on ne s'ennuie pas en regardant une course de Formule E. Après, j'ai envie de signaler Luca di Grassi, qui n'a pas commis d'erreur sur le e-prix, qui était en passe d'avoir des gros points, voire une victoire avec ce qui s'est passé. Mais il a eu malheureusement une suspension avant cassée. Donc pas de chance pour lui. Mais toujours pas d'erreur, hein, Luca Di Grassi. Trois grosses courses pour les trois premiers prix et un abandon qui n'est pas de son fait. Et il est toujours leader au championnat du monde de Formule E avec 58 points. Deuxième Sam Bird qui a quand même pu marquer quelques points malgré la pénalité grâce aux abandons, aux multiples grosses batailles devant. Est à 10 points de Di Grassi avec 48 points. Troisième Buemi, 43 points. Qui a également pu. Non, il n'a pas pu marquer des points puisqu'il a tapé, il me semble. Donc, non, 43 points, Buemi. Il a marqué des points, si, pour sa pole position. Parce que oui, il y a des points pour la pole position et pour le meilleur tour en course. D'ailleurs, je crois que c'est Bird hein, qui a eu le meilleur tour en course. Hein. Sous réserve. Hein. Sous réserve. Mais il me semble que c'est lui. Prost, quatrième avec 42 points, à un point de son coéquipier et qui revient dans la lutte pour le titre. Et Nelson Piquet Jr. avec son deuxième podium d'affilée à 37 points. Donc lui aussi en embuscade. Nelson Piquet Jr., c'est le pilote cette saison qui fait pas de vagues, qui fait rien d'impressionnant non plus, il faut bien l'avouer, mais qui ne fait aucune vague et qui marque ses points, quoi, qui est toujours plus ou moins dans le top 10, hein. Toujours plus ou moins dans la lutte dans le top 10. Et là, deux derniers podiums. Attention, attention, il est en embuscade. Après, voilà, Luca di Grassi, gros, gros favori peut-être cette saison. C'est vrai qu'il est assez affûté en Formule E. Mais il a quand même des clients derrière avec les Idams Renault qui sont vraiment fringantes. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'espère qu'il a été beaucoup moins monotone que la semaine dernière. Où j'étais pas encore tout à fait remis. Là, ça va mieux cette semaine et ça ira mieux, je l'espère, les semaines suivantes. Parce que ça me plaît pas non plus de faire des podcasts de façon assez molle. Donc voilà, j'espère que ça a été cool pour vous également. Voilà, je vous remercie et tous ensemble, d'ici la semaine prochaine et donc la prochaine émission thématique consacrée à un bilan des pilotes et écuries, parce que la saison va reprendre, mais c'est important de revenir sur la saison passée, de voir ce qui a été bien ou moins bien de la part des écuries pilotes. Donc voilà, d'ici la semaine prochaine, tous ensemble, vivons notre passion! À bientôt!